Les matinées de la CRTV, environnement.
Lutte contre le braconnage, les gouvernements d'Afrique centrale ont fort à faire. Le Gabon, comme le Cameroun et les autres pays de la CEMAC, se déploient pour barrer la voie aux pilleurs de faune. C'est ce que vient expliquer le directeur de la lutte contre le braconnage au ministère gabonais chargé des eaux et forêts, l'invité de Lynn René Batung.
Philippe Ongolais, bonjour et bienvenue au matinée de la CRTV.
Bonjour madame.
Dites-nous, quelles sont les espèces qui sont vraiment les plus menacées chez vous au Gabon?
C'est surtout l'éléphant. Et après l'éléphant, nous avons des espèces comme le pangolin. À cause de ces écailles qui fait l'objet aussi d'un trafic international.
On a parlé au Cameroun des conflits homme-faune. Ça existe également au Gabon, je suppose.
Même au Gabon, les conflits homme-faune existent. Depuis 2014, il y avait eu un forum sur les conflits homme-faune qui nous a permis de mettre en place une boîte à outils. C'était un ensemble de mesures que l'on pouvait utiliser pour essayer de résoudre ces conflits-là. Mais récemment, le gouvernement vient de prendre une résolution, celle d'utiliser beaucoup plus les barrières électriques autour des plantations, des populations, tout ça, pour limiter le conflit homme-faune.
Alors, pour lutter contre la criminalité faunique, on revient à notre sujet, le Gabon a mis en place tout un laboratoire d'analyse.
C'est un fruit de longues années de travail, parce que ce laboratoire est mis en place depuis plus de 6 ans. Il s'agit d'un laboratoire génétique. Parce que à travers ce laboratoire, nous avons la possibilité d'élucider, par exemple, des scènes de crimes fauniques. Nous avons la possibilité, en cas de saisie, de faire un lien avec l'origine géographique même, parce que là, on est allé un peu plus loin. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a cette possibilité-là, à travers les bases de données génétiques que nous avons au niveau du Gabon, de dire exactement que les ivoires qui sont en face de nous proviennent d'un éléphant qui serait, par exemple, de telle province ou de telle autre province.
Par exemple, on a fait une saisie il y a quelques mois dans la zone d'Ambam, qui est une zone transfrontalière, parce qu'on a le Gabon, la Guinée équatoriale et puis le Cameroun. On a fait une forte saisie de pointes d'ivoire. Ça veut dire que vous allez vous saisir de ces pointes d'ivoire-là pour pouvoir déterminer l'origine même des éléphants qui ont été abattus par les braconniers.
C'est vraiment l'un des objectifs de notre mission ici, c'est de pouvoir faire cet échantillonnage-là. Cet échantillonnage nous permettra d'amener des morceaux de ces ivoires-là qui seront ensuite analysés au niveau du laboratoire. Et au sortir de là, nous pourrons savoir exactement déjà si tous ces ivoires-là sont vraiment issus du Gabon. Et si c'est du Gabon, après, c'est de quelle zone du Gabon ?
On ne comprend pas très bien parce qu'il y a des éléphants qui peuvent être nés au Gabon, étant donné qu'il y a une migration des éléphants. Ils peuvent migrer vers le Congo, après venir vers le Cameroun. Comment est-ce que vous faites pour déterminer que non, ça c'est des éléphants du Gabon, ça c'est des éléphants du Cameroun absolument?
Justement, tout à l'heure, je vous disais que c'est le fruit de plusieurs années de travail. Donc, il y a une base de données qui a été constituée au sein de ce laboratoire-là. À travers cette base de données, on a essayé les résultats des analyses des échantillons que nous avions. Nous ont permis déjà d'essayer de grouper tous les échantillons que nous avons par région, par localité, tout ça. C'est vrai, les animaux n'ont pas de barrières, les animaux n'ont pas de frontières. Ça, c'est clair et net. Mais si on dit, par exemple, au Gabon, que cet éléphant sort, par exemple, de la forêt de Minkébé, ben, tout de suite, nous pourrons comprendre que c'est un éléphant qui peut être sorti du sud du Gabon et du Cameroun et du nord du Gabon, par exemple. Donc, ces rapprochements-là peuvent être faits facilement. On ne va pas précisément dire que c'est un éléphant du Gabon. Non, on saura que cet éléphant, c'est un éléphant, par exemple, de telle zone, parce que c'est vrai que la base génétique est la même, mais par zone, il y a certaines spécificités qui nous permettent finalement de les regrouper, de savoir que non, cet éléphant est plus proche de ces éléphants que nous avons échantillonnés ou testés génétiquement dans cette zone ou dans telle autre zone.
En fait, il n'y a pas une assurance à 100%, c'est des probabilités souvent.
L'assurance à 100% ne peut pas exister. On parle toujours des probabilités. Quelle est la probabilité la plus élevée?
Et c'est un laboratoire qui existe depuis combien de temps au Gabon et quels sont ses faits d'armes à ce jour?
Le travail de ce laboratoire date d'un peu plus de 6 ans. Mais c'est maintenant que nous sommes en train vraiment de le tester, de mettre un peu tout ce qui a été capitalisé, toutes les données que nous avons pu capitaliser. Oui. Nous essayons désormais de les exploiter. Parce qu'à long terme, ça pourra nous aider aussi dans les procédures pénales. Parce que nous pourrons relier, par exemple, une petite preuve, une goutte de sang que nous aurons trouvée dans un véhicule. Nous pourrons déterminer que ce sang-là, c'est le sang de telle ou telle espèce. Et si c'est le sang de l'éléphant, pourra faire savoir que non, cet éléphant qui a été tué est peut-être de telle ou telle autre zone, tout ça là. Donc ça pourra nous aider. En ce moment, juridiquement, il n'est pas encore accepté comme étant un outil d'aide à la décision dans les procédures juridiques, mais l'objectif pour nous, c'est d'aller vers cela.
Et vous pensez aujourd'hui que déterminer l'origine génétique des pachydermes va constituer un grand pas pour la lutte contre la criminalité faunique en Afrique centrale?
Effectivement, madame, ça constitue un grand pas. Un grand pas dans ce sens où les braconniers utilisent forcément des circuits bien précis. Et lorsque nous pouvons désormais localiser géographiquement la source des ivoires, ça nous permet de savoir à peu près quels sont les circuits qui ont été utilisés par les criminels fauniques. Et là, ça nous permet de mettre en place de meilleurs moyens de contrôle, de postes de contrôle. Nous saurons exactement où mettre nos postes de contrôle, ainsi de suite, et ça pourra largement nous aider dans la lutte contre la criminalité faunique.
À ce jour, le Gabon est le seul pays à être doté d'un laboratoire similaire.
Du moins, au niveau de la sous-région, oui. C'est d'ailleurs pour nous une occasion de faire aussi un appel aux autres pays de la sous-région pour leur dire que le laboratoire est ouvert. Oui. Il est ouvert à tout le monde. Et les experts qui animent ce laboratoire, je pense, à mon avis, peuvent également aider les pays frères à mettre aussi en place de tels laboratoires.
Et qu'est-ce qui va être fait par vous? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous vous trouvez au Cameroun. Demain, vous allez vous rendre, je ne sais pas moi, en RCA, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo peut-être, pour pouvoir leur expliquer ce qui est fait au niveau de ce laboratoire et comment est-ce que ensemble vous pouvez vous mettre pour...
Il faut d'abord dire que notre visite au Cameroun est d'abord liée à cet événement. Mais si le travail qui va être fait, c'est un travail vraiment probant qui peut être vraiment utilisé, exploité, pourquoi pas par nos autorités. Moi, je me dis qu'en ce moment, il serait peut-être bien d'aller plus loin, essayer de vendre un peu plus ce laboratoire.
Une dernière question. Qu'est-ce qui est fait, généralement, de tous ces kilos d'ivoire qui sont saisis? On a vu des kilos et des kilos d'ivoire qui étaient brûlés devant des caméras. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça, ce sont des décisions vraiment politiques.
Oui. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à décourager les braconniers?
L'objectif derrière cela, c'est aussi ça. C'est décourager, à mon avis, les braconniers.
Et vous pensez que ça les décourage? Vraiment.
Nous le souhaitons ardemment, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que ça a été peut-être une décision prise à un moment donné. Je ne sais pas si la même décision sera prise encore demain, après-demain, pour qu'on puisse encore brûler tous les stocks d'ivoire que nous avons. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que tout ce qui est saisi est transporté vers des lieux de stockage.
Pour en faire quoi plus tard?
En ce moment, nous sommes liés par les conventions internationales, donc la CITES. Donc, à un moment donné, il faudra certainement se référer à la CITES pour décider un peu ce qui pourrait être fait de ces stocks-là.
Mais vous, en tant que directeur de la lutte contre le braconnage au ministère gabonais chargé des eaux et forêts, qu'est-ce que vous pouvez préconiser?
Nous avons des obligations internationales.
Qui vous lient un peu?
Sinon, pour moi, l'objectif peut-être serait de voir, après avoir regroupé tous ces stocks issus de la criminalité faunique, lutter contre la criminalité faunique nécessite beaucoup de moyens. Il serait peut-être souhaitable de voir comment on peut reconvertir tous ces stocks-là en moyens qui pourraient peut-être aider les services techniques à mieux faire leur travail.
Par exemple.
Voilà. Je ne dis pas que c'est vraiment, la solution qu'il faut. Ça, c'est à chaud la réponse que je pourrais peut-être donner à cette question.
Merci infiniment, Philippe Ongoulé. J'espère que vous avez aimé Yaoundé. C'est votre première fois de vous retrouver à Yaoundé.
Oui, c'est ma première fois. J'ai eu cette chance-là de visiter Bolova lors des festivités du 20 mai. Et c'est la première fois aujourd'hui où j'arrive à Yaoundé.
Comment vous avez trouvé?
À mon avis, c'est une belle ville, accueillante, vraiment à première vue.
De toute façon, vous allez vous y plaire.
Merci beaucoup.
À très bientôt, Philippe Ongoulé, et merci encore.
C'est moi qui vous remercie, madame.